Bonjour Laurence Boone.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, membre de l'ECFR, le Conseil européen pour les relations internationales. Vous êtes économiste et vous avez été secrétaire d'État chargé de l'Europe. C'est justement avec vous qu'on parlera d'Europe tout à l'heure. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Économiste, vous êtes membre du Cercle des économistes. On va se retrouver dans quelques jours à Aix. Et vous êtes l'auteur, le co-auteur de Quelle France en 2050 ? Vous mettriez 2050 là maintenant ou Quelle France le 8 juillet 2024 ?
Mais c'est plus facile 2050 que juillet 2024.
Oui. Quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde chez Odile Jacob. Bonjour Philippe Manière.
Bonjour.
Président de Aesolis Communication, vous avez publié Le Pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Oui, ce matin, je dis l'économie a déjà perdu. Toutes les mesures qui nous sont proposées sont toutes frappées du bon sens. Elles sont toutes évidentes. Elles sont intuitivement justes et elles vont forcément améliorer ma vie. Si je mets 200 euros dans le SMIC, je mets de l'argent, il y a de l'argent. Donc le pouvoir d'achat s'améliore. Si je baisse la TVA d'un produit hyper taxé comme le carburant, bien sûr que le prix doit baisser puisque j'ai retiré des taxes. Si je vais à 62 ans ou 60 ans à la retraite, je vois pas qui est contre en fait. Tout le monde est pour. Qu'est-ce qu'on attend? Si je bloque les prix du quotidien, on a eu 2 ans d'inflation. Ce serait peut-être temps de s'y mettre, effectivement. Les riches vont payer. Oui, l'argent est là. C'est logique d'aller chercher l'argent là où il est. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'argent va venir de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il serait peut-être temps de s'y mettre. C'est vrai, l'État va nous donner du pouvoir d'achat. Tout ce que j'ai dit là, c'est intuitif pour tout le monde. Et bien pourtant, il y a ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Et quand on décortique chacune des mesures, c'est pas les gens qui sont autour de cette table probablement qui vont me démentir, c'est difficile de les valider et elles passent difficilement l'exercice de l'analyse. Si je vous dis que l'économie a perdu, Patrick Artus, on a parlé énormément d'économie, et bien finalement il n'en reste rien.
Mais le problème, c'est que tout ce que vous venez de dire est exact, mais une très grande majorité de Français ont une vision très keynésienne de la politique économique. Et donc, regardez les chiffrements de Valérie Rabault, par exemple, du programme du Front Populaire. J'augmente les dépenses publiques, j'augmente le SMIC, j'embauche des fonctionnaires, il y a plus de revenus distribués, il y a plus de production, ça permet de financer un supplément de dépenses, on a 3% de croissance chroniquement, et ce qui est totalement absent de réflexion, c'est les effets d'offre. Par exemple, que quand vous avez des taux d'imposition supérieure à un certain seuil, ça décourage l'investissement, ça décourage les entreprises étrangères de venir en France, ça décourage probablement de travailler, et personne ne raisonne en termes d'une balance raisonnable entre la stimulation de la demande et la stimulation de l'offre. Et je crois qu'on a... si vous avez cette vision strictement keynésienne de l'économie, vous pouvez assumer d'avoir des taux d'imposition très élevés, de redistribuer c'est l'argent des riches aux pauvres, parce que les pauvres consomment plus que les riches, et donc vous aurez davantage de production, etc. Mais vous ne réfléchissez pas au fait que vous aurez moins d'épargne, et parce que c'est les riches qui épargnent, et donc que vous ne pourrez pas financer les investissements. Donc il y a un défaut d'analyse qui est très commun, qui est l'ignorance des effets d'offre.
Alors, je pense que ce qui fait vendre, c'est votre première photographie de la demande, beaucoup plus que la photographie de l'offre. Et la politique, c'est de la vente. On vend quelque chose. Il faut trouver des acheteurs.
Mais on a déjà essayé des politiques strictement de la demande. Et effectivement, en général, l'année 1, vous avez un supplément de production parce que vous avez un supplément de consommation. Et l'année 2, vous avez la chute de l'investissement, des problèmes de commerce extérieur, des problèmes de financement, des taux d'intérêt qui montent. Et vous êtes obligé de passer une politique de rigueur.
Bonjour Pierre Mauroy. Non, c'est ça. Bonjour 1980.
Oui, mais c'est systématiquement que
Laurence,
vous avez observé.
Mon scoop du jour, l'économie a déjà perdu, le premier résultat de l'élection est connu.
Non, mais je voudrais juste rebondir. Et il faut rappeler que la France est à la fois championne du monde des impôts et des dépenses publiques et championne du monde de l'insatisfaction.
Donc, on est champion du monde de l'insatisfaction.
Mais les Français ne sont jamais ne sont pas heureux de leur situation. Et c'est sûrement raisonnable dans une partie des cas, c'est sûr. Mais il y a quand même un problème sur lequel il faut se pencher, qui est pourquoi est-ce qu'on a cet écart colossal entre ses dépenses et ses recettes, avec un pays aussi qui a connu le moins d'évolution des inégalités de tous les pays de l'OCDE, qui est le plus redistributif de tous les pays de l'OCDE, et qui a aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans et le taux d'emploi le plus élevé depuis 40 ans. Alors il y a peut-être deux explications à ça. Il y a une explication qui est la répartition entre les territoires. il y a effectivement des territoires qui vont mal avec des gens qui souffrent. Il faut peut-être se poser cette question de répartition, notamment dans la santé. Et puis, il y a plein de petites choses dont on n'entend pas du tout parler. Vous prenez la santé. Chaque année, au mois d'octobre, on a la grippe. Chaque année, il faut passer une loi pour augmenter le nombre d'heures des infirmières. Et si on augmente le nombre, le salaire des infirmières, on ne s'intéresse pas qu'aux infirmières. Notre système est tel qu'il faut augmenter le salaire de toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital à cause de la grippe. Donc vous ne pouvez pas augmenter les infirmières sans augmenter la réceptionniste, sans augmenter le médecin, sans augmenter le directeur de l'hôpital. Donc on a ces rigidités dont personne ne parle, mais qui d'une part nous contraignent terriblement et d'autre part nous coûtent très cher.
Philippe, pour terminer le tour de table d'ouverture.
Vous avez commencé l'émission, Nicolas, avec en citant Bastiat, hein, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, douce musique à mes oreilles. Le problème, c'est ça, c'est la méconnaissance par les Français de leur propre génie économique, parce que nous avons donné à la science économique et à la réflexion politico-économique, puisque pendant un temps, c'était quasiment la même chose, pratiquement les plus beaux esprits pendant des années. On a évoqué Bastiat,
etc.
Et malheureusement, personne ne le sait. Moi, j'ai entendu parler de Bastiat la première fois dans un voyage aux États-Unis. Personne ne m'en avait jamais parlé en France, ou pourtant j'avais eu la chance d'avoir fait des études convenables. Donc, si vous voulez, cette évidence qui est évidente dans tous les pays anglo-saxons, pour faire simple, que oui, il y a ce qui se voit et ce qui ne voit pas, attention, il y a les effets pervers, en France, les gens n'ont pas ça en tête. Alors, j'ajoute quand même quelque chose, c'est que. Moi, c'est ça qui fait que j'en voudrais toujours à Emmanuel Macron, qui a fait des choses bien par ailleurs, en particulier en termes de politique de l'offre, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je pense qu'il a fait quelque chose d'absolument criminel par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire la méconnaissance des Français des mécanismes. Il a, avec le quoi
qu'il en... la méconnaissance, le refus.
Je suis pas paranoïaque et je veux pas condamner nos concitoyens si personne leur a jamais dit et s'ils ont jamais été obligés de réfléchir au sujet parce qu'on leur l'a pas demandé, c'est pas anormal qu'ils ne sachent pas. Moi, un ignorant, on peut pas lui en faire grief. Les gens qui ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas dit. Et on leur dit même le contraire. Je reviens à ce que je disais sur Emmanuel Macron. Au moment du Covid, la terre entière, évidemment, indemnise. C'est normal, on ne peut pas faire autrement. Mais nous avons été ceux qui ont indemnisé le plus. Je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau. Moi, j'avais des amis galeristes, restaurateurs qui ont fait leur meilleure année en 2020. Les doigts de pied en éventail aux Bahamas, le magasin fermé. Est-ce normal? Bien sûr que non, ce n'est pas normal. Quand vous dites quoi qu'il en coûte, vous trahissez ce qu'est le mandat d'un politique. Gouverner, c'est choisir. Quand vous dites quoi qu'il en coûte, vous envoyez le message aux Français qu'il y a de l'argent, que c'est seulement une question de volonté, si on en a ou on n'en a pas. Ça me rappelle une conversation, puisque j'évoquais Bastiat, pardon, je finis mon petit propos liminaire sur ce point, en citant un autre philosophe politique, qui était Antonis de Jazet. Très bel esprit, un Hongrois qui avait émigré en France, puis au Royaume-Uni, qui connaissait bien la France, mais qui la regardait encore un peu avec un œil extérieur. Et il m'avait dit qu'il avait été très étonné, je crois qu'il a fait un papier même dans le Wall Street Journal sur le sujet, par ce commentaire qu'on entend souvent en France, le gouvernement a débloqué des crédits. Oui. Débloqué. Et bien, en anglais, c'est unblock, c'est comme s'il y avait un esprit malin, vous voyez, qui retenait un lac de ressources et de bonheur, mais il y a des gens méchants qui bloquent, et heureusement, de temps en temps, grâce au courage du peuple qui conteste, on débloque. C'est-à-dire qu'il y a le concept d'une espèce de corne d'abondance qui serait là, disponible, mais que les gens qui sont au pouvoir, parce qu'ils sont méchants, ne veulent pas mobiliser. Donc on est dans cette fantasmagorie, dans cette représentation qui est franchement alternative, faute de culture économique. Et encore une fois, j'y insiste, je me permets d'y insister, même si ce n'est pas très obligeant à son endroit, le président de la République a entretenu ça. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est ça. Et puis ensuite, il y a eu cette espèce de folie du chèque. Vous voyez, les Français, on le disait tout à l'heure, on n'ont pas vu leur pouvoir d'achat baisser statistiquement. Bien sûr, il y a des gens qui ont souffert. La statistique, il y a toujours une dispersion. Mais les Français sont ceux dont le pouvoir d'achat a été le plus préservé dans l'Union européenne et même quasiment dans l'OCDE, malgré la crise en Ukraine et avant le Covid, les Français n'en savent absolument pas gré. Ce que je retiens comme leçon de cette séquence, c'est qu'il ne faut pas donner de l'argent gratuit, parce que les gens oublient qu'on le leur a donné. Enfin, pardon, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner de l'argent aux gens qui en ont besoin, entendons-nous bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la dispensation, comme ça, sans limite d'argent, au motif qu'il y a une raison exogène d'être contrarié, n'a pas de sens, ni économique évidemment, ni politique. C'est ça qu'on voit. Le président de la République qui a le plus débloqué, comme aurait dit Antonis de Jazet, est celui qui est le plus détesté. C'est un paradoxe dingue, mais enfin, il faut en tirer les leçons pour l'avenir.
Laurence Boone, vous vouliez réagir.
Je voulais juste dire quelque chose. C'est pas très juste de dire qu'il n'y a pas eu d'explication. Tout le premier mandat d'Emmanuel Macron est sur la politique de l'offre. tout le premier mandat d'Emmanuel Macron est de libérer l'énergie des entreprises, de baisser des impôts sur les entreprises, de rendre la France attractive, Choose France. Je peux vous assurer que les 26 autres Européens trouvent que c'est génial et se demandent comment est-ce qu'ils pourraient faire ça ou le faire au niveau européen.
C'est juste.
Donc, et aujourd'hui, c'est vrai, jusqu'à la dissolution, l'image de la France comme terre d'investissement était bonne. Les entreprises du Brexit sont venues ici, les Américains viennent, etc. Donc je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'explications sur la politique de l'offre. Le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, effectivement, tout le monde l'a fait.
Oui, mais pas si longtemps et pas avec le même quantum.
Je vais finir.
Pardon.
Je vais finir parce que tout le monde l'a fait. Les entreprises étaient très contentes d'avoir les prêts, etc. Ça leur a permis de garder des personnes. Ça a duré trop longtemps. Ça c'est juste. Et je crois qu'on entend de tous les politiques aujourd'hui, effectivement, que des dépenses, comme si l'argent était gratuit, comme si les 500 fortunes de France, juste en redistribuant toutes leurs actions d'entreprise, puisqu'en général c'est ce qu'elles ont, allaient pouvoir résoudre les problèmes de la planète, ce qui est de la France en particulier, ce qui est un peu une insulte à l'intelligence des Français. Et d'ailleurs, j'en profite.
Allez-y,
on aimerait entendre un politique dire, voilà, on est sur le podium des impôts et des dépenses publiques de l'OCDE. Mon objectif, au bout de 5 ans, ça sera d'être numéro 3 ou numéro 5. Et ça serait un énorme changement.
Un dernier exemple, je donne la parole à Patrick Artus, mais ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. On a entendu qu'on allait et qu'il fallait réindexer les salaires sur l'inflation. Des indexations qui a quand même été prononcées par les socialistes dans les années 80. Alors, ce qui se voit, c'est que c'est logique que les salaires suivent l'inflation, parce que s'il y a de l'inflation, moi je perds du pouvoir d'achat, enfin mon salaire réel régresse. Et puis regardez, la Belgique l'a fait, ça se passe très bien. Oui, mais ce qui ne se voit pas, c'est que les marges des entreprises belges sont sérieusement rognées, parce que c'est un pays très ouvert au centre de l'Europe, ils peuvent pas se permettre de répercuter toutes les hausses de salaire sur les prix, donc la compétitivité des entreprises souffre là-bas. Et puis en 96, on a érigé un super garde-fou. Tous les deux ans, les partenaires sociaux décident d'une forme de plafond qu'on dépassera pas. C'est pas une véritable indexation totale des salaires sur l'inflation. Et puis en cas de désinflation, cette fois-ci, c'est l'austérité salariale qui s'installe en Belgique. Donc il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Bon, Patrick, allez-y, on avance.
Je crois que quand on parle de politique de l'offre, on distingue deux choses. Je pense qu'il y a eu un succès de la politique d'Emmanuel Macron, c'est les politiques de l'offre fiscale, c'est des politiques de relance de l'industrie dans des secteurs stratégiques. La flat tax à 30%, ça fait du bien, ça fait monter l'investissement des entreprises. L'essentiel d'abord de la baisse de la pression fiscale sur les entreprises est investi, et pas distribué aux actionnaires. Voilà. Mais je crois qu'il y a eu un autre segment où les politiques de l'offre ont été déficientes, c'est le segment qui touche à l'investissement technologique. On a un investissement en nouvelles technologies en France qui est extrêmement bas, qui est plus bas que la moyenne européenne, plus bas que la moyenne de l'OCDE, beaucoup plus bas. C'est les dépenses de recherche-développement. Les dépenses de recherche-développement, c'est 2,2% du PIB. C'est 3,5% aux États-Unis, etc. Et
mais
donc,
ça, c'est le privé. Ça, c'est les entreprises. Pourquoi
les entreprises, on a beaucoup donné d'argent aux entreprises et finalement sans contrepartie sur sur l'autre moitié de la politique de l'offre. Et donc je crois que le résultat, c'est cette contradiction qui est qu'on a fait des politiques de l'offre, elles ont fait monter le taux d'emploi, elles ont fait monter le taux d'investissement et elles ont fait baisser la productivité parce qu'elles n'ont pas été associées à des politiques d'investissement technologique, de recherche, de développement de nouveaux produits. Et ça, je crois que tout notre problème et toute l'attente, en fait, effectivement, qui ne peut pas être satisfaite des Français, ce problème vient du recul de la productivité. Oui. Et dans un pays où la productivité recule, évidemment, il y a un problème de conflit, de distribution des revenus, de partage des revenus, puisque chacun, le gâteau est diminuant, chacun ne veut pas voir sa part du gâteau diminuer. Et puis, Et c'est très anormal. Regardez les États-Unis, il y a 2% de productivité par an. Et ils ont fait aussi des politiques du quoi qu'il en coûte, etc. Et parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses technologiques, il y a beaucoup plus de dépenses d'entreprises en recherche-développement, il y a beaucoup plus de dépenses universitaires. Et je crois que la pauvreté des universités aussi en France est critiquable. Et donc, on n'a fait qu'une demi-politique de l'offre en réalité.
C'était l'aspect que mettait en avant effectivement Éric Ayer tout récemment pour pondérer le grand enthousiasme qu'il y a sur les 10 années de politique de l'offre en France. Vous voulez réagir?
Oui, non, parce que sur la productivité, par exemple, là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ignorance, et encore une fois, je ne le mets pas au débit de ceux qui sont ignorants, l'ignorance des Français sur le sujet. il est très rare en France que quelqu'un, dans un débat, indique que la seule manière de s'enrichir, c'est de produire plus. Et que pour ça, il y a, pas faire mon Karl Marx sur un coin de table, mais il faut mobiliser les facteurs de production, capital, travail. Voilà. Donc il faut avoir un peu de capital. Si on le chasse, ça marchera moins bien. Il faut que les gens bossent. Si on arrête de bosser, ça marchera moins bien. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Puis il faut des gains de productivité. Bon, si vous avez en tête que les gens s'enrichissent sans gains de productivité, Vous trichez par rapport aux mécanismes économiques. Donc, vous pompez de l'argent sur les générations futures via l'endettement. Ou vous pompez de l'argent sur l'étranger qu'il faudra rembourser. Donc, c'est un problème de déséquilibre extérieur. Enfin, pardon, Patrick Artus, je dois y aller vraiment à la serpe par rapport à la réalité économique fine que vous maîtrisez mille fois mieux que moi. Mais on voit bien que sans productivité, il n'y a pas d'enrichissement légitime ou dolosif pour une autre génération. D'une manière ou d'une autre.
C'est vrai que le mot n'apparaît pas dans les programmes.
Moi, je trouve qu'on en parle un peu plus. Moi, j'ai été assez heureusement surpris. Depuis 8 jours, j'ai parfois entendu mentionner la question de la productivité. Parfois entendu, il faut d'abord créer avant de distribuer. Les gens qui le disent sont relativement courageux. Je ne sais d'ailleurs même plus qui le disait, pour être très honnête. Hein, mais parce que ça vole pas très bien. Mais c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire. Parce que tant que les gens n'auront pas compris ça, ils prétendront de bonne foi, et je ne leur en veux pas encore une fois, travailler moins, gagner plus. Et que tout marche, c'est pas possible. Un dernier point sur la productivité. Ce que dit Patrick est parfaitement juste. Il y a quand même, en gros, que les États-Unis qui ont plus de problèmes de productivité, qui ont pas de problème.
La Corée.
D'accord, mais en Europe, on est tous encalminés sur le sujet. C'est un peu un mystère.
L'Italie a des gains de productivité.
Laurence Boone,
c'est pas tellement un mystère. Ce mystère s'explique. Le mystère s'explique. Vous regardez les États-Unis et Patrick y faisait allusion, où sont les entreprises du numérique et des nouvelles technologies? 75% de la valeur de la capitalisation boursière de ces entreprises est aux US et le reste est en Corée et en Asie. Il n'y en a pas en Europe. Où est-ce qu'on est fort? Dans des entreprises manufacturières traditionnelles, l'automobile, la production d'équipements, etc. Où est la créativité digitale, technologique? Elle est dans les entreprises du numérique. On a deux sujets. Un, c'est qu'on en crée, on n'en fait pas assez, on n'en produit pas assez. Et deux, c'est qu'on n'en adopte pas assez, ce qui explique aussi le ralentissement de la productivité. Et pourquoi? Parce que quand vous équipez... moi, j'étais dans une entreprise, vous y avez été aussi. Quand vous équipez en numérique, et Patrick a fortiori dans une banque, une entreprise, ça veut dire qu'il faut réorganiser le travail de tous les salariés de l'entreprise. Ça demande une flexibilité à laquelle on n'est pas très habitué.
Ouais. Avant de marquer une pause, est-ce que vous comprenez que le chômage et le plein emploi aient totalement disparu du débat?
Oh bah oui. Bah
puisque c'est oui. Une bonne nouvelle.
Je pose la question pour ça. Oui.
C'est parce que 80% des partis politiques et des Français pensent que si on stimule la demande, définition, il y aura des emplois, moins de chômage, etc. Donc c'est le corollaire de la conviction que la seule politique faisable, c'est une politique de stimulation de la demande, que cette politique va d'ailleurs assez largement, que cette politique va assez largement s'autofinancer parce qu'elle va faire un supplément d'activité, et que donc cette politique de stimulation de la demande va créer des emplois. Et à nouveau, c'est l'ignorance des effets d'offre. Si vous êtes dans un monde de bisounours où c'est très simple, c'est les riches qui épargnent, c'est les pauvres qui consomment. Donc vous prenez l'argent des riches, vous le donnez aux pauvres. Donc vous avez davantage de consommation et vous avez que des effets vertueux. Ouais. Vous avez davantage de production, davantage d'emplois, Et qu'est-ce qui va pas? Comme vous avez plus d'épargne des riches, vous avez plus d'investissement et votre économie descend par rapport aux autres économies avec le sous-investissement chronique. Mais ce sous-investissement chronique, personne, aussi bien à gauche qu'au Rassemblement National, n'évoque comme conséquence. Personne ne pense que une redistribution massive vers les moins riches, ça fait baisser la consommation, ça fait baisser l'épargne, ça fait monter la consommation, et donc ça dégrade le commerce extérieur, ça dégrade l'investissement.
Mais je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a deux choses. Le pouvoir d'achat, la hausse du pouvoir d'achat, c'est la hausse de l'emploi et c'est la hausse des salaires. À partir du moment où c'est assez difficile à entendre, pour les raisons qu'ont expliquées Philippe et Patrick, et que par ailleurs, quand vous augmentez les salaires, surtout sur les bas revenus, beaucoup en charge, en cotisation, et en impôts, effectivement, vous n'avez plus le sentiment que l'emploi paye. Donc, le thème du pouvoir d'achat vient de celui de la redistribution. Mais je pense qu'à l'inverse, quand on entend ceux qui proposent de baisser ces charges, on va redonner du pouvoir d'achat grâce à l'emploi. Et c'est, je crois, la politique d'offre dans laquelle on est en train de parler.
On marque une pause. Dans un instant, je vous donne la parole à Philippe Panière. Il y a un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, notamment vous, Laurence, parce que vous avez fréquenté de près les questions européennes. Il y a quand même l'idée qui est passée quasi inaperçue. On va probablement pas tenir notre parole en Europe. Mais c'est, voilà. Et ben, personne n'est ému par
comme
ça.
Comme d'hab.
Pas totalement comme d'hab. C'est pas parce qu'on respecte pas les règles budgétaires et qu'on se retrouve sous des procédures de déficit excessif qu'on fait un bras d'honneur aux gens avec qui on fonctionne. Et là, il y a quand même cette tentation. Bon, on en dira un mot dans un instant. On se retrouve juste après la pause.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.